La marche du monde.
Je me suis toujours caché après ma déportation pour vivre heureux, vivant caché. Je souffrais et donc j'avais besoin d'isolement.
Cet isolement, ce silence de toute une vie, Carole Pilla a décidé de le briser. L'année de ses 80 ans, il est venu témoigner au mémorial de la Shoah à Paris. Ce récit est unique, c'est celui du plus jeune survivant d'Auschwitz-Birkenau.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Jacques Fredge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du mémorial de la Shoah. Et avant de découvrir ensemble l'histoire de Carole Pilla, l'enfant d'Auschwitz, je voudrais d'abord que vous nous disiez pourquoi ce 27 janvier est une journée particulière. Je précise que depuis 10 ans, la France a retenu la date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, comme journée de la mémoire.
Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la mémoire de la Shoah en Europe a été une mémoire difficile. C'est-à-dire, au lendemain de la guerre, après quelques années, chacun des pays s'est déconstruit une autre histoire. Si l'histoire de la Shoah a toujours été présente dans toutes les histoires, néanmoins, c'était une histoire qu'on avait du mal à regarder en face dans chacun des pays. En France, nous le savons, Vichy a été une période difficile, mais en Hollande, il y avait un mythe autour du sauvetage de la population juive. En Suisse, la Suisse avait accueilli de nombreux réfugiés, etc. Donc il y avait bien sûr une part de vrai, mais une grande part de mythe dans ces histoires. Et c'est vrai que il faudra attendre les années 90 pour que les pays soient rattrapés par leur propre histoire. En 1995, 27 janvier, parce qu'il y a toujours une commémoration le 27 janvier, à Auschwitz.
Sachant que le 27 janvier 1945, c'est bien la date de la libération du camp d'Auschwitz.
Alors, là aussi, il y a discussion, parce que en fait, il n'y a pas eu de libération du camp. Hein. Disons que c'est l'ouverture du camp. Les nazis sont partis. Lorsque les Russes arrivent dans le camp, Primo Levi en parle, ils arrivent un peu par hasard, et de manière générale, lorsque les alliés vont arriver dans les camps, c'est pas un objectif de guerre. Ils y arrivent un peu par hasard, sans véritablement savoir à quoi ils sont confrontés. Et donc, le 27 janvier, il y a traditionnellement une commémoration à Auschwitz. Ce qui est nouveau, c'est que à partir des années 90, l'histoire de la Shoah va reprendre sa place dans l'histoire de l'Europe. Et en 2002, sur un plan européen, on va décréter cette journée européenne de la mémoire de l'histoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Ça sera repris par l'ONU et l'UNESCO et aujourd'hui c'est une véritable journée internationale.
Alors, 70 ans après, nous avons la chance de pouvoir encore découvrir des témoignages inédits comme celui de Carole Pilla. Mais 70 ans après, c'est bien la question de la disparition des témoins qui se pose. Comment le mémorial de la Shoah envisage de perpétuer cette parole des témoins ?
Déjà, je crois qu'il faut accepter un constat, c'est-à-dire que nous avons, nous, l'habitude au mémorial de travailler sur deux registres, sur l'histoire et sur la mémoire. Une visite au mémorial emprunte ces deux voies. Ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons pas remplacer le témoignage. C'est-à-dire que il y a eu, pendant très longtemps, des personnes qui considéraient qu'on allait devenir les témoins des témoins, etc. Mais voilà, c'est une illusion. C'est-à-dire que les témoins ont en eux cette expérience vivante qu'ils vont emporter avec eux.
Alors, pour ne pas perdre justement cette parole, vous faites le choix, au mémorial de la Shoah, de l'enregistrer. Donc nous avons ces archives sonores et audiovisuelles. Et grâce à la constitution de ces archives audiovisuelles du mémorial de la Shoah, la Marche du Monde peut aujourd'hui vous proposer ce documentaire sonore. Carole Pilla, l'enfant d'Auschwitz.
Je suis un enfant de Birkenau. J'avais 12 ans. Il fallait que je fasse mon chemin. Je ne voulais pas mourir à Auschwitz.
La détermination de Carole Pilla reste entière. Les sourcils froncés, il regarde droit devant lui et s'adresse à celles et ceux qui sont venus l'écouter au mémorial de la Shoah. Pour la première fois, il va livrer son témoignage.
Mesdames, messieurs, je suis venu ici pour témoigner. Ici, c'est un haut lieu où j'ai envie de parler. Parce que pour moi, à 80 ans, c'est l'heure de parler. N'attendez pas à ce que je sois un orateur exceptionnel. J'ai la locution très difficile, mais il y a quelque chose qui me pousse à parler. Donc, j'ai envie de me lâcher aujourd'hui. J'ai envie de me lâcher pour me libérer de mes cicatrices, de mes blessures, afin que je puisse être libre, libre de mon corps, libre de tout le poids de souffrance que j'ai dû subir. C'était pas facile pour un enfant, vous me voyez adulte, mais sachez que c'est un enfant qui va parler. Nous étions cinq frères et sœurs, une famille très unie. Je me rappelle des Shabbats de la maison. Je me rappelle d'un lien très fort entre nous tous. Nous étions très heureux de vivre. Et malheureusement, la guerre est venue. J'avais 8 ans et je viens maintenant ici avec mes 80 ans.
Huit ans, c'est l'âge de Carole, lorsque la guerre attrape son enfance de petit garçon juif. Né à Bedzin en 1931, sa vie bascule dès l'invasion de la Pologne par les Allemands.
Mon père était négociant en animaux. Pendant la guerre, il travaillait la nuit pour essayer de faire face aux besoins de la famille. Et très rapidement, il s'est fait prendre et je n'ai plus entendu parler de lui. Je sens ma mère en désarroi. Elle se trouve subitement, à la tête d'une famille de cinq enfants. J'étais bouleversé de ce déchirement du père que je ne voyais plus. Je manquais de cet amour qui me blessait, mais qui me responsabilisait. Et je m'interrogeais pourquoi. Je me disais pourquoi. Pourquoi ça ?
À Bedzin, dans le sud de la Pologne, ils sont 30 000 juifs à se demander pourquoi. Carole est l'un des très rares survivants. C'est à l'école qu'il fait l'expérience du racisme et de la discrimination.
Sale juif, Youdès, c'était du permanent, tout petit. On m'agressait, je ne l'admettais pas. Quand je rentrais le soir, je tirais le jupe de ma mère pour lui dire... Il faut partir. Il faut partir. On devait porter l'étoile de David. C'est pas que j'étais pas fier de porter l'étoile, mais porter l'étoile comme tampon juif, non. Non. Je ne voulais pas être marqué. Je ne concevais pas. Je la portais pas parce que je ne voulais pas la porter. Je voulais pas la porter pour pas que les Allemands me prennent rapidement. Donc l'étoile, je l'avais quand il fallait, mais très vite je retroussais ma veste pour la cacher. J'avais qu'une idée, c'est m'évader. Pourquoi m'évader ? Parce que j'étais pourchassé en permanence. Je devais me cacher parce que j'étais juif.
Lors de la première grande rafle, Carole, son frère, sa mère et ses trois sœurs sont tous arrêtés dans leur maison et parqués dans le stade de la ville.
On nous a tous pris, on se fait coincer, tous, ma mère avec ses enfants. On nous a raflés pour aller au stade. C'est là que ma mère nous a dit: mes enfants, je ne peux plus rien pour vous. Sauvez-vous. J'ai compris ce que ça voulait dire. Il fallait vite comprendre, parce qu'on n'avait pas le droit de ne pas comprendre. Je dis à ma sœur, tu viens avec moi. Il y a un Allemand qui allumait sa cigarette. Et il y avait énormément de vent, énormément de vent. Il s'est tourné pour l'allumer. Le temps qu'il tourne, j'ai attrapé la main de ma sœur et je dis « Allez, on y va, c'est le moment. » Et je me suis sauvé à ce moment-là. Et c'est là que je me suis retrouvé à l'extérieur, face à l'existence. Ma mère, quand elle m'a dit « Partez », j'ai vite analysé sa détresse de nous dire ça. Une mère qui dit à ses enfants « Je ne peux plus rien pour vous. » Je l'ai retenu ma vie durant. C'est en moi. Et c'est ça qui m'a forgé pour aider à survivre.
Après avoir perdu son père, sa mère, son frère et l'une de ses sœurs, Carole Pilla se serre les coudes avec le seul être qui lui reste, sa sœur aînée, tandis que l'étau se resserre sur les Juifs de Benzine.
On vivait comme on a pu. Très vite, il y a eu des rafles. Et ma sœur, elle avait un an de plus que moi. Elle m'a dit, viens, viens là. Et bien, je ressentais qu'il ne fallait pas que j'aille là. Je dis, non, tu viens de ce côté-là, tu viens avec moi. Et elle se sentant, elle est née, elle est partie, moi je ne l'ai pas suivie. Et elle s'est fait rafler. Et je me suis retrouvé tout seul à Benzine, sans parents. Tout seul. Il fallait manger. Je voulais manger. Alors, j'étais porteur d'eau. J'étais tout petit. J'avais une barre et puis on portait de l'eau au polac et puis on nous donnait la pièce. Comme j'étais tout petit, arrivé chez eux, j'avais renversé le trois quarts. Et le restant de l'eau, on me l'a jeté dans la figure. Comme quoi je faisais pas mon boulot. Alors c'est là que j'ai compris qu'il faut que je change d'activité. Je vendais des bonbons. Des dix makoufki, c'est des bonbons. En Pologne, ils mangeaient des bonbons au pavot. Et je vendais pendant quelques temps des bonbons. À d'autres moments, je vendais des pommes de terre râpées en galettes un peu. Et de temps en temps, j'allais voler au marché tout ce que je pouvais. Comme ça, j'allais prendre des oranges qui traînaient, comme ça. J'essaie de faire face à mes besoins pour me nourrir.
Carole ne reverra jamais ses sœurs, ni ses frères, ni ses parents. Déterminé, courageux, frondeur, le petit garçon d'à peine 10 ans improvise des petits boulots entre deux vols à la tire. Mais à chaque instant, il peut à son tour se faire prendre.
Je ne savais pas comment me cacher. Je voulais sauver ma peau. Ma peau, je voulais la sauver. J'avais une rage de vivre. On m'a ôté mes parents. On m'a arraché. Cet amour, j'avais besoin. Donc je dis, je vis, je dois vivre, je dois survivre. Les rafles se poursuivaient. Et un jour, je passe devant un petit potager et je vois un tonneau. Je prends le tonneau, je me le coiffe. Il était percé, etc. Je me coiffe et je m'abrite là. Pourquoi je me suis abrité là? Un, pour être à l'abri. Deux, pour qu'on ne me tire pas dessus. Et trois, parce que j'avais repéré des grains, un peu de raisin. J'avais repéré un peu de légumes. Je sentais que je pouvais avoir quelque chose à manger. Et voilà comment je me suis abrité. Tout en même temps, je scrutais mon petit casse-croûte. Et là, je me suis abrité pendant des jours et des jours, recroquevillé. Je sortais la nuit, je me déplaçais quand même à quelques voies avec le tonneau. Et d'autres fois, je le retirais la nuit profonde pour qu'on ne me voie pas. J'avais la rage de continuer de vivre et de représenter ma famille. Et voilà comment passaient les jours. À force de souffrir, tout devenait un exercice pour moi. Je m'entraînais. J'avais l'impression que je devenais de plus en plus compétent. Franchement, je me sentais bien. J'avais la force de me battre. Alors je me battais comme j'ai pu, en solitaire. Personne pour m'aider. Seul, seul, c'est lourd. J'avais qu'une idée en tête, être libre. Donc, en permanence, quand on me prenait, je m'échappais. Il y a des moments où c'était difficile. Et à force de vagabonder à l'extérieur, un jour, on m'a pris, on m'a collé en prison en Pologne. Je me suis trouvé en prison, je ne sais pas comment, je me suis trouvé, j'étais vagabond peut-être, j'ai dû faire des choses qu'il ne fallait pas peut-être, je n'en sais rien. Et un Polonais, pour une fois, il y a un Polonais qui m'a fait du bien, il y avait deux barreaux, il me dit non, c'est pas normal que tu sois là, va-t'en petit gars, va-t'en, je tiens les barres, va-t'en. Il m'a écarté les barreaux, il m'a dit mets-toi sur moi et fais ton chemin. Je me suis encore sauvé de prison et je me suis retrouvé de nouveau à Benjin.
La ville de Benjin est au sud de la Pologne. C'est là que Carole est née. C'est là que sa famille a été raflée. Carole n'a rien, ni personne. Il fait l'expérience de la survie dans le ghetto juif, en risquant à tout moment de se faire tirer dessus, d'être battu, arrêté ou déporté.
Une chose est certaine, j'étais tout petit, haut comme trois pommes. Donc pour les Allemands, je n'étais pas intéressant. Et je voulais leur prouver que je suis intéressant, que je suis un élément qui veut travailler. Ce message, je l'ai fait sentir à l'officier du ghetto, je l'ai fait sentir. Je dis que je peux être cireur de bottes, je peux faire rendre des services. Je suis capable de travailler, donc prêt à prouver ce que je peux faire. Donnez-moi ma chance pour m'en sortir et ne vous fiez pas à ma petite taille. Cireur de bottes était ma spécialité. Le tout était de convaincre que les bottes que je vais cirer, l'officier puisse se voir dedans. Tellement j'étais professionnel. Et c'est comme ça que j'ai eu une activité au ghetto. Dans le ghetto, le commandant m'a pris, j'ai eu la chance, il m'a pris un petit peu en affection. Et à un moment donné, le ghetto se liquidait. Et il m'a demandé, tu restes ici avec moi, etc. Eh bien, je dis non. Non, je vais avec mes camarades, je pars. Parce que j'ai très vite fait le choix. Je ne voulais pas confier ma vie à un SS. Et donc, j'ai préféré partir à Birkenau avec tout le monde que d'être protégé par un SS. Donc, je voulais partir avec mes autres camarades du ghetto pour Birkenau que de confier ma vie à un SS. C'était mon feeling, ma destinée. Et je suis parti là-bas, à Birkenau, Auschwitz, que mes camarades connaissent. Je savais ce qui m'attendait. La Pologne, le ghetto, m'a servi d'apprentissage pour la suite.
Vous écoutez le récit de Carole Pila, l'enfant d'Auschwitz, un documentaire sonore proposé par RFI et le mémorial de la Shoah, à retrouver juste après les infos sur RFI.
Marche du monde.
Je suis un enfant de Birkenau. J'avais 12 ans. Il fallait que je fasse mon chemin. Je ne voulais pas mourir à Auschwitz.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
La voix de Carole Pilla dans La Marche du Monde, le plus jeune survivant d'Auschwitz. Un témoignage exceptionnel, puisque les enfants ne pouvaient pas survivre à Auschwitz. Tout comme les personnes âgées, les femmes enceintes ou les gens malades, les nazis sélectionnaient les juifs sur la rampe d'arrivée du wagon et les envoyaient directement aux chambres à gaz. Seuls les adultes valides étaient utilisés pour le travail, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils soient sélectionnés. Cette logique, Carole Pilla l'a intégrée tout petit dans le ghetto de Béjin, sa ville d'origine. C'est là qu'il perd tous les membres de sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, raflés les uns après les autres. Lorsque les derniers habitants du ghetto polonais de Béjin, évidés par les nazis pour être transférés à Auschwitz-Birkenau, à 50 km de là, Carole sait que pour rester en vie, il faudra qu'ils réussissent à travailler. Suite de notre documentaire sonore proposé par le Mémorial de la Shoah et RFI, Carole Pilla, l'enfant d'Auschwitz.
Il y a un convoi qui arrive, je descends comme tout le monde et on attend, on avance petit à petit le long de la rampe pour être sélectionné. Je savais bien ce que ça veut dire. Je savais que j'étais haut comme trois pommes. Et je savais que j'allais directement où on ne revient pas. Je savais, mais je voulais vivre. Donc, haut comme trois pommes, je savais qu'ils allaient me mettre avec les personnes âgées. Et très vite, je me suis dit, personnes âgées et enfants, qu'est-ce qu'ils vont apporter aux Allemands? Rien. Ils sont donc inutiles, s'ils sont inutiles. Ils vont donc disparaître. J'ai logiquement suivi ce cheminement. Donc, je ne voulais pas aller avec les personnes âgées, ni avec les enfants. Je voulais aller avec les adultes. On avance au fur et à mesure. Et mon sang commence à bouillir. Je voulais être grand en ce moment-là. Grand, parce que si j'étais grand, j'irais à gauche. J'étais pas grand. J'étais tout petit. Je regardais en l'air, j'étais toujours tout petit. J'espérais qu'il me fasse grandir. Non, non, j'étais toujours petit. Et bon, ben le moment arrive. Plusieurs capots, ils me prennent, parce qu'ils sentaient que j'avais une résistance, ils me mettent sur le camion. Mes forces se sont multipliées. Et très vite, j'ai tout poussé, écarté. J'ai sauté du camion et j'ai dit à l'officier, monsieur l'officier, je veux travailler, je suis capable de travailler, je vous prouverai que je vais travailler, laissez-moi aller avec les grands, je voulais être grand et le bon Dieu m'a pas fait grand, il m'a pas fait grand. Eh bien, devant cette ténacité, on me met dans une petite ambulance à part. Une petite ambulance. Je casse le carreau, je passe par la vitre. Je traverse tout en sang. Je m'approche de l'officier. Mais laissez-moi aller là! Et c'est là qu'il a réagi. Bon, qu'il aille avec les grands. Et je suis parti avec les grands.
C'est un miracle. Carole a gagné son entrée dans le camp où un travail lui est ordonné par le commandement nazi.
Le commandant Schwarzhuber, il a ordonné qu'on me fasse une tenue de Laufer. Il paraît que j'étais mignon et que j'étais un peu à rien. C'était bien d'être comme ça. Donc j'ai acquis la profession de coursier Laufer. Mon activité principale était de faire sortir et de faire entrer au pas cadencé les déportés qui allaient travailler. Eins, zwei, links, eins, zwei, drei, ils voulaient comme ça. Faire marcher des gens qui tiennent pas debout au pas cadencé. Vous pensez si j'en avais le cœur?
C'est la première fois que Carole Pilla prend la parole publiquement. Dans l'auditorium du mémorial de la Shoah, deux autres rescapés des camps sont venus le soutenir. Henri Borland, seul survivant sur les 6000 enfants juifs déportés de France, et Simon Gutmann, arrivé à Auschwitz par le premier convoi du 27 mars 1942.
Je vivais à Birkenau par miracle. Peut-être parce que j'ai obtenu le respect des Allemands, j'ai vécu dans un bloc privilégié, le bloc numéro 4. J'étais avec Simon Gutmann, ici présent. Je vivais dans son bloc. Simon Gutmann était, j'avais de bonnes relations, cuisinier à Auschwitz. Et régulièrement, je passais là-bas, s'il y avait un casse-croûte qui traînait. Chaque fois, il répondait « présent ». Un homme qui m'a donné à manger, il est là, c'est Simon Gutmann. Je ne l'oublierai pas comme il sait.
Simon et Carole ne se sont plus jamais quittés et leur différence d'âge s'est effacée avec le temps, mais à l'époque, en 44, Simon est un grand de 20 ans pour le petit Carole, un grand frère qui affronte l'enfer du camp de travail de Auschwitz-Birkenau depuis mars 1942.
À Auschwitz, on nous a tatoués. Tout le monde a un tatouage ici ou sur la poitrine. Moi, j'ai un tatouage ici. On arrive à Birkenau. Le Birkenau n'existe pas. Il y avait quelques baraques en briques. Pas de sanitaire. On était rongés, bouffés par les poux, la vermine, le typhus, la dysenterie. Alors, il y avait des flaques d'eau glacée. Et j'avais un copain. Il s'appelait Maurice Arbizer. Très, très gentil garçon. Et je fixe mon copain. Je dis, dis-moi, Maurice, est-ce que moi, je suis aussi dégueulasse que toi? Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Pas de miroir. Et il me dit, tu sais quoi? Nous sommes tous les deux très sales et dégueulasses. J'ai cassé une flaque d'eau glacée et je me suis lavé le visage en allemand. Il dit, oh, d'eau, comme, toi, viens. Je reviens, je dis, merde. Je suis foutu.
Sous son prétexte hygiénique, la nudité du premier coup livre au camp l'homme déjà humilié, rasé, tatoué, numéroté, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtu de la tenue bleue rayée, classé parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Marqué du triangle rouge des politiques, le déporté affronte d'abord les triangles verts, les droits communs, maître parmi les sous-hommes. Au-dessus, le capot, presque toujours un droit commun. Au-dessus encore, le SS, l'intouchable, on lui parle à 3 mètres. Tout en haut, le commandant, lointain, il préside au rite, il affecte d'ignorer le camp.
Et voilà, Alfred, un allemand, un triangle rouge, un allemand, triangle rouge politique. Alors, il s'adresse au tueur Albert Hemmerle et dit, dis-moi, j'aurais besoin d'un cuisinier. Il était capot de cuisine. Alors, il dit, ah, j'ai un cuisinier pour toi. Il me cite moi. Il me dit, ah, toi, dire cuisinier. Moi, pas cuisinier. Oh, mensch, cuisinier. Et une aubaine, une chance, on m'amène pour me doucher, une douche chaude. J'ai jamais eu ça. C'était un grand luxe. Il me change de vêtements, tenue de cuisinier. Il m'amène chez l'Oberschaffführer, SS, le grand chef magnéto des cuisines. Il y avait 50 et quelques cuisiniers. J'étais le seul juif. Je me suis dirigé vers les barbelés pour me faire tuer par les miradors. Entre-temps, il dit, tu souffres bien, tu souffres désespérément, mais qui est-ce qui va pleurer après toi? Il dit, bon, il faut lutter, parce que j'étais lâche. Pour moi, j'étais lâche d'abandonner. désespéré, point de vue souffrance. 58 cuisiniers. Il n'y avait que des Polacs. Des Polacs. Quelques Ukrainiens. Et moi, j'étais le seul juif. Le souffre-douleur. J'ai lutté. Et puis, il y a eu un coup dur. J'étais témoin du coup dur. Il y a des Polacs qui ont fauché une boîte de margarine dans le magasin. Et on disait que c'était moi. Je dis, mais... Alors, si c'est pas toi, je parlais déjà le polonais aussi. Si c'est pas toi, qui? Je dis, moi, je ne sais pas, moi. Mais je ne sais pas. Et ils m'ont tabassé à mort. J'ai saigné des oreilles, du nez, du main, à mort. Et après la dérouillade, ils m'ont dit, Chimek, tu es des nôtres. Tu es des nôtres. C'était les voleurs qui m'ont tabassé. Tu es des nôtres. Comme ils savaient que j'étais témoin, j'ai jamais dénoncé. Quitte à crever. Là, j'ai eu la paix.
Avoir la paix, ne pas se faire battre ou tuer, cacher sa fatigue ou sa maladie pour ne pas être expédié à la chambre à gaz, manger, c'est le combat quotidien de Simon, Carole et Henri Borland, éternellement reconnaissant lui aussi à Simon Gutmann.
Je me souviens, en octobre 1944, il m'avait pris sous son aile dans un commando où j'étais à l'abri des coups et où le travail que j'avais à faire dans les termes du camp, c'était une planque. Il était le cuistot du capot et moi j'étais son aide-cuistot. Et puis il y a un monsieur qui est grand-père aujourd'hui, mais pour nous, pour Simon et pour moi, ça reste le petit Carole. Parce que c'était le seul enfant qu'il y avait dans le camp. Il était haut comme trois pommes. C'était le petit bonhomme qui se baladait avec un uniforme qu'on lui avait fait sur mesure, avec un brassard de Leufer, c'est-à-dire de coursier. Et il allait d'un air martial très décidé, porter les messages d'une baraque à l'autre. Voilà ce que je voulais dire d'abord. Merci Carole. Merci Simon.
Henri et Carole sont sous la protection bienveillante de Simon, qui risque sa vie en volant de la nourriture pour ses petits frères du camp. Un camp où Carole, tout petit, malgré ses 12 ans, devient le jouet des Allemands.
Deux Allemands m'ont pris. Ils m'ont foutu dans le bassin. Allez, hop! Ils m'ont demandé auparavant si je savais nager. Bon, si je savais nager, ça ne les aurait peut-être pas amusés. Mais je dis non, parce qu'ils ne savaient pas nager. Ils m'ont pris l'un par les pieds, l'autre par la tête, et ils m'ont jeté très loin. Alors je me suis débattu, je voulais arriver au bord. Il était loin le bord quand je ne sais pas nager, il était loin, il était réellement loin. Donc par miracle, je suis revenu au bord. Et me voyant au bord, au moment où je suis asphyxié, ils me reprennent et rebolotent, ils me lancent de nouveau à l'eau. Loin, j'ai plus de force. Eh bien, je peux vous dire que les SS, c'est des sadiques, à très haut niveau, des sadiques, qui prenaient du plaisir à voir un enfant se débattre dans l'eau, se débattre pour ne pas se noyer. Je voulais pas me noyer, je voulais pas qu'ils aient ce plaisir. Je voulais montrer que je mettrais toutes mes forces pour arriver une autre fois. Eh bien, ils m'ont jeté deux fois. Et par chance, avec un petit ange qui me suivait, c'est une chance qu'ils étaient appelés en mission, je ne sais pas où, ils m'ont laissé vivre.
Obsédé par sa propre survie, Carole n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, même s'il souffre le martyr physiquement et moralement. Viscéralement combatif, déterminé comme jamais, il déjoue tous les pièges de la sélection. Il se cache dans les latrines lorsqu'il a de la fièvre et il réussit contre toute attente à se faire dépouiller en dehors du camp.
Un jour, j'avais des poux. Avoir des poux, c'est comme être grand malade, c'est direct au four crématoire, direct. Et il fallait sortir du camp pour se faire dépouiller très discrètement, je me suis organisé, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un capot, j'ai pu m'organiser pour arriver à me faire dépouiller à l'extérieur du camp. Je l'ai fait, je suis arrivé à me faire dépouiller pour continuer à conserver mon activité, de l'offrir et surtout de ne pas être sélectionné.
À 80 ans, Carole donne la parole à l'enfant déporté d'Auschwitz-Birkenau qu'il a été.
Je souffrais terriblement, terriblement du manque d'affection. Je souffrais terriblement. Je hurlais de douleur du manque de parents. Je souffrais plus du manque d'amour que de faim, que de soif. Auschwitz, c'était ça. L'amour me manquait. On m'a déchiré. On m'a arraché des parents. Léon, il me prenait dans ses bras et il me berçait. Parce qu'il sentait que j'étais en manque. J'étais en manque d'amour.
Le 27 janvier 1945, les nazis désertent le camp et les survivants vont mettre des semaines, voire des mois pour certains, à rentrer. Suite à cette expérience à la fois terrible et intense, Carole Pilat, Simon Gutmann et Henri Borland se retrouveront pour ne plus se quitter. Henri Borland évoque sa situation de jeune rescapé des camps dans la France de l'après-guerre.
Moi, je ne disais pas que j'étais juif, non. On ne me le demandait pas non plus. Mon nom, ça n'évoquait pas. Mon tatouage, je portais des manches longues. Et puis des fois, quand dans les circonstances du sport ou des choses, on me demandait qu'est-ce que c'est, je répondais en souriant, c'est mon numéro de téléphone. C'était pas vrai, j'avais pas de téléphone. Mais bon, enfin bref, vous voyez, ça s'est passé comme ça. Je considérais que j'avais de bonnes raisons de penser que c'était dangereux de dire qu'on est juif à des gens qu'on ne connaît pas. Que l'antisémitisme, ça existait et qu'on nous a fait payer très cher. Pour le reste, la première année, j'étais plus âgé que mes camarades de classe. Et puis après, petit à petit, ça ne se voyait pas trop la différence, quoi. Avec mes copains, on avait tellement à faire. On rentrait dans des familles dévastées. Et puis en regardant Carole, il n'y avait plus de famille du tout. En ce qui le concerne. Et Simon, il n'y avait plus de famille non plus, si je me remémore. Ton père est revenu. Oui. On était très, très actifs. C'était vraiment un job à plein temps que de vivre au quotidien, jour le jour. Et il fallait se trouver des trucs. On se refilait les adresses d'organisations caritatives. Qui donnait ici un colis d'alimentation, là de quoi s'habiller. Je me souviens que chez toi, Simon, tu n'avais plus ni drap ni couverture. Ouais. Voilà, on était démunis, on n'avait rien, et donc il fallait cavaler. Et donc on n'a pas pu se payer le luxe de ressasser vengeance, haine, etc. Je dois dire que j'étais très heureux qu'il y ait des gens qui s'en occupent, qu'il y ait eu des chasseurs de nazis et que. On en a attrapé quelques-uns, qu'on les ait jugés et condamnés. Et j'ai pas pleuré quand on a exécuté Eichmann, par exemple.
Henri considère qu'il n'a pas le droit de se taire. Sur 6000 enfants juifs de France, il est le seul à être revenu d'Auschwitz. Tout comme Simon Gutmann et Carole Pilat, Henri Borland incarne l'espoir.
J'ai connu des gens formidables dans le camp. J'ai connu des gens exceptionnels. Le petit Carole, c'est un phénomène de résistance, de survie, de ténacité, de volonté. Quant à Simon, il avait 20 ans. Pour moi, c'était un grand, parce qu'il était plus âgé que moi. La peur, il ne connaissait pas. Il était capable de faire des choses inouïes. Moi, je tremblais quand je l'accompagnais. Moi, je suis rentré avec cette idée que, bien sûr, il y a des méchants... Il y a des choses dangereuses, il y a des... Bon. Mais il y a aussi des gens qui sont dignes d'admiration.
Je suis fier aujourd'hui de savoir que je suis passé par là, mais je tremblais dans ma culotte quand j'étais avec lui, parce que là-bas, pour le moindre faux pas, on risquait de se faire tuer. Et lui, des faux pas, mais d'abord, c'est aussi incroyable que quand Carole, lui, il a réussi, alors qu'on a voulu l'envoyer à l'arrivée à Birkenau, à la chambre à gaz, à sauter deux fois du camion, en présence du chef SS du camp. Et puis une troisième fois, on l'a enfermé dans la pseudo-ambulance. Il a défoncé, je ne sais pas si c'est avec sa tête ou avec ses poings, ses petits poings. Il a réussi à sauter en dehors. Et puis, en fin de compte, le chef SS l'a laissé entrer dans le camp. Donc c'est des choses qui se produisent une fois sur je sais pas, sur un million. Enfin, voilà, donc moi j'ai vu ça, j'ai connu ça. Et je suis rentré avec ça dans la tête que on pouvait tenter l'impossible et puis avoir une chance de faire en sorte que ça marche.
Merci Jacques Fredge de nous avoir confié ces témoignages saisissants de Carole Pila et de ses amis Henri Borland et Simon Gutmann. Des paroles rares et inédites puisque c'était la première fois que Carole Pila parlait à 80 ans. Il donne la parole à l'enfant juif qu'il était de 8, 10, 12 ans face aux nazis. C'est un des témoignages les plus forts, les plus bouleversants qui puissent exister sur la Shoah parce que c'est celui d'un enfant. Mais pas seulement, j'ai envie de dire, parce que ce qui rend le témoignage de Carole Pila tout à fait singulier, c'est sa primeur, c'est qu'il n'avait jamais parlé, ça s'entend. C'est presque un cri contenu toute une vie et qui surgit comme ça de l'enfance. Le cas de Carole Pila est tout à fait inouï.
Oui, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Il y a des témoins qui se mettent à parler dès leur retour. Il n'y en a pas des dizaines de milliers, mais il y a un certain nombre de témoignages dès le lendemain de la guerre qui vont augmenter petit à petit pour exploser dans les années 80. Et donc les témoins qui reviennent, ils témoignent d'abord pour ceux qui ont disparu. Ça, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'ils le savent, ils savent que ceux qui survivront devront raconter.
Carole Pila, en l'occurrence, lui, avait décidé de ne pas parler.
Oui, alors après, il y a le cas de ceux qui, pour des raisons diverses et variées, et notamment pour pouvoir vivre avec une telle expérience, vont décider de ne pas parler.
C'est une protection.
C'est une protection, c'est une façon de se reconstruire. Et donc, chacun, en fait, va avoir un cheminement par rapport à cette histoire. Certains, d'ailleurs, à qui nous nous adressons, ne veulent toujours pas parler. Il faut bien comprendre que les témoins qui sont revenus, c'est l'exception, que la majorité des Juifs ont été déportés pour être exterminés. Et c'est toujours la difficulté du témoignage, c'est tout d'abord de dire « attention, moi je suis là, mais c'est une exception ». La majorité de mes camarades ont été assassinés, et quand je dis assassinés, pour le cas des Juifs, ils ont été assassinés, mais même morts, les Juifs n'avaient pas le statut d'être humain, puisque, vous le savez, les Juifs étaient considérés par les nazis comme des virus, des bactéries, qu'il fallait brûler, même morts. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le mémorial s'est mis à collecter des témoignages, c'est non seulement pour préparer l'avenir, mais aussi parce que ils vont éclairer le point de vue des victimes. Ce qui est important pour nous, c'est aussi, dans une organisation comme UNESCO, de bien souligner que la Shoah est rentrée au patrimoine de l'humanité et qu'elle fait partie, finalement, des questionnements que tous les êtres humains peuvent avoir, quel que soit le lieu où ils vivent, le continent où ils vivent, parce que, à travers l'histoire de la Shoah, je pense qu'il y a un véritable questionnement politique dont nous ne pouvons pas faire l'économie, quel que soit l'endroit où nous vivons aujourd'hui.
Merci Jacques Fredge. Et pour aller plus loin, je vous signale la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah qui montre comment la bande dessinée s'est emparée de la mémoire du génocide des Juifs avec prudence, erreur, tâtonnement et parfois génie. Un parcours historique que vous invite à découvrir cette exposition, depuis les comics américains à la bande dessinée franco-belge ou encore les romans graphiques et les mangas. Carole Pilla, l'enfant d'Auschwitz, c'était une édition spéciale de la Marche du Monde en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, réalisée par Sophie Janin et Cécile Pompeani. Vos réactions sont les bienvenues sur marche.monde@rfi.fr et aussi sur la page Facebook de l'émission. Merci de votre fidélité, podcastez, cette émission c'est la vôtre.